Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Et ainsi, retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 18 juin 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, april.org, et vous y retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission, avec les références utiles et sur les pauses musicales, sur les sujets que nous allons aborder, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant, le programme de cette émission. Nous commencerons par la chronique juridique de Noémie Berger intitulée « In Code We Trust » qui sera consacrée à l'usurpation d'identité numérique. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, autrement dit les chatons. En fin d'émission, nous aurons la chronique « Le libre fait sa com » d'Isabella Vanni consacrée au thème du retour d'expérience de l'animation d'un stand de l'April lors d'événements. À la réalisation de l'émission, Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors, on va vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en cours d'émission. Vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio ou également sur les réseaux sociaux. Alors, première question. La même que la semaine dernière, vu que j'avais oublié de donner la réponse, mais c'est quand même en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Alors, lors d'une émission du 4 juin, notre sujet principal portait sur Framasoft. La question est, d'où vient le nom Framasoft? Deuxième question. Que se passe-t-il à Rézé, dans les Pays de la Loire, samedi 22 juin, une activité en lien avec notre émission de la semaine dernière? Réponse en fin d'émission. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons donc commencer par une intervention donc de Noémie Berger, avocate au cabinet d'Une, pour sa chronique « In Code We Trust ». La chronique du jour va porter sur l'usurpation d'identité numérique, Noémie. Donc, bonjour Noémie.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
Alors nous t'écoutons.
Eh bien oui, donc cette chronique est dédiée au délit d'usurpation d'identité numérique. Donc après une première présentation de ce délit, eh bien nous aborderons quelques cas pratiques de décisions qui ont été rendues en la matière. Donc le délit d'usurpation d'identité, il est prévu en fait à l'article 226-4-1 du Code pénal. Il a été créé par la loi numéro 2011-267 du 14 mars 2011, dite d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la loi LOPSI 2. Et donc cet article, eh bien, il incrimine le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur et à sa considération. Et donc ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors l'article précise dans son alinéa 2 que cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Alors c'est vrai que ce deuxième alinéa n'est pas véritablement pertinent puisqu'en fait le premier alinéa, le fait d'usurper l'identité, inclut nécessairement l'infraction qui est commise sur les réseaux de communication au public en ligne. Mais en tout cas, il permet de comprendre la motivation du législateur puisque l'idée était quand même de faire d'apporter un peu de pédagogie et on s'était aperçu que ce type d'agissement était quand même assez régulièrement commis via les réseaux de communication publique en ligne. Donc le législateur a voulu un petit peu renforcer son article, même si l'alinéa 2 est plutôt perçu par les praticiens comme inutile. Il faut savoir qu'avant cet article, les faits d'usurpation d'identité étaient sanctionnés par des textes généraux. Donc on avait le délit d'escroquerie qui est prévu à l'article 313-1 du Code pénal. Donc ce délit d'escroquerie, c'est celui qui punit l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses pour tromper une personne physique ou morale et la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Ce délit était puni, et toujours puni d'ailleurs, d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 375 000 euros d'amende. Et il y avait un autre délit qui était utilisé également pour sanctionner les faits d'usurpation d'identité. C'était l'article 434-23 et qui incrimine le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales. Donc à présent, on a un article qui est prévu dans le code pénal sur l'usurpation d'identité en lui-même, les éléments caractéristiques de ce délit. Eh bien, il faut retenir que donc c'est l'usurpation de l'identité. L'identité, dans le rapport de l'Assemblée nationale, eh bien le conseiller rapporteur estimait que le terme identité recouvrait tous les identifiants électroniques de la personne, à la fois son nom, son surnom, mais également son pseudonyme lorsqu'il est utilisé sur Internet. Et donc, pour que le délit soit caractérisé, il faut d'une part usurper l'identité et d'autre part avoir une volonté d'user cette identité pour troubler la tranquillité d'autrui ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération. On a plusieurs décisions de justice en la matière. Alors, il faut noter que le délit semble pouvoir s'appliquer également aux personnes morales, puisque la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 octobre 2014, eh bien, a jugé qu'une personne morale pouvait agir sur le fondement de l'usurpation d'identité numérique au travers de son dirigeant social. Donc, dans cette espèce, le prévenu avait créé, avec les coordonnées de la société, de fausses adresses, et y avait publié des contenus diffamatoires et insultants. Eh bien, les juges ont retenu le délit d'usurpation d'identité et ont condamné l'auteur des faits à 10 mois de prison avec sursis. L'arrêt qui est assez marquant dans cette matière de l'usurpation d'identité, c'est un arrêt de la chambre criminelle du 16 novembre 2016 qui a été vraiment l'un des plus commentés dans la jurisprudence, puisque c'était la création, en fait, dans cette espèce, un site internet avait été créé et il reproduisait l'apparence officielle du site officiel de la maire du 7e arrondissement de l'époque, qui reproduisait donc sa photographie, qui diffusait des commentaires insultants et diffamatoires et qui permettait de publier sur les réseaux sociaux des faux communiqués de cette maire. Donc une plainte avait été déposée pour atteinte à un système de traitement automatisé de données et usurpation d'identité sur support numérique. Donc, pour les atteintes au système de traitement automatisé de données, je vous renvoie, si cela vous intéresse, à la chronique sur le sujet des infractions informatiques. On avait évoqué ces atteintes. Sur l'usurpation d'identité, donc après enquête, l'auteur du site avait été identifié. Et en fait, ce qu'il avait expliqué, c'est qu'il avait découvert une faille de sécurité dans le site officiel du maire qui lui permettrait en fait d'entrer dans le site et de pouvoir diffuser lui-même ou par des tiers des contenus et notamment de faux communiqués de presse. Donc il avait été condamné par le tribunal correctionnel pour le délit d'usurpation d'identité et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé à 3000 euros d'amende. La Cour d'appel a confirmé cette décision en notant, alors l'auteur de ces faits avait tenté de se dédouaner en indiquant que le site que lui-même avait créé était légèrement différent du site officiel et donc que ça aurait pu ouvrir une confusion et donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu d'usurpation d'identité. Là-dessus, les juges n'ont pas considéré que ce moyen était pertinent. Ils ont considéré qu'au contraire, il y avait quand même une importante ressemblance entre le site officiel et le faux site. Et donc, le fait qu'il n'ait pas contesté être l'auteur de la construction, être l'auteur de ce site et qu'il n'ait pas contesté non plus d'avoir découvert le moyen qui lui permettait de se connecter à ce site, eh bien, a aussi joué puisque l'élément intentionnel a donc été retenu. Il avait vraiment la volonté de créer un site fictif, d'encourager des personnes qu'il suivait à mettre en ligne de faux messages via ce site. Et donc, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que le prévenu avait bien usurpé l'identité d'un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Et chose importante dans cet arrêt, c'est que la Cour de cassation a indiqué que cette infraction était exclusive de l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression. Donc là, vraiment, on a une décision forte qui vient protéger les intérêts privés. On a ensuite un jugement assez récent, c'est pour ça que j'en parle, du 16 avril 2019, un jugement de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, donc qui est la chambre spécialisée en droit de la presse. Donc là, dans cette espèce, un faux site avait été créé en vue de s'attaquer à un syndic de copropriété, qui doit être assez, assez régulier. Mais là la personne s'était vraiment, avait vraiment mis en place de très importants moyens, puisqu'elle avait créé un site pour en fait critiquer l'action d'un syndic de copropriété. Et donc le président du syndic de copropriété avait déposé une plainte pour usurpation d'identité numérique et pour violation des obligations prévues par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, donc à savoir les mentions légales qui ne figuraient pas sur le site. Donc effectivement, le site n'ayant pas de mention légale, les enquêteurs ont dû mener des investigations un peu plus poussées pour identifier l'auteur. En tout cas, il a été identifié. C'est comme ça qu'ils ont pu, découvrir que c'était un des copropriétaires. Et là, le tribunal, donc, dans sa décision, a relaxé l'auteur du site du délit d'usurpation d'identité pour une motivation qui est assez claire, qui est qu'en fait, le nom du site, si elle comprenait bien celui du syndic de copropriété et faisait référence à son activité professionnelle, eh bien, les juges ont constaté qu'en fait, ce site était suffisamment clair et il n'y avait pas de confusion pour comprendre qu'en fait, il ne s'agissait pas du site du syndic de copropriété, mais bien d'un site qui avait été créé pour critiquer le syndic de copropriété. Donc voilà, la différence est quand même assez importante. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de condamnation pour usurpation d'identité parce que le site n'avait pas pour vocation de prendre l'identité d'un tiers, mais plutôt de critiquer l'action d'un tiers. Et il faut noter également sur les mentions légales du site qui n'avaient pas été publiées, eh bien, le tribunal a rejeté la demande qui était contenue dans la plainte en considérant que malheureusement la citation directe ne visait pas les bons articles de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elle visait les articles 6.3.1 et qu'elle aurait dû en fait viser les articles 6.3.2 et que les juges étant limités dans leur requalification, ils ne pouvaient pas requalifier l'infraction par laquelle ils étaient saisis. Donc ce qui rappelle un peu la nécessité de bien rédiger les citations directes quand on est partie civile. Alors, pour terminer, juste comment réagir quand on est victime soi-même du délit d'usurpation d'identité. Évidemment, quand c'est des documents administratifs ou bancaires qui sont en cause, il faut faire opposition au plus vite, conserver les preuves. Si c'est pertinent, prévenir l'éditeur du site, si ce n'est pas lui l'auteur des agissements. Et puis, porter plainte, saisir un juge pour obtenir soit la cessation, soit l'indemnisation. Et éventuellement, voir avec son assureur s'il peut y avoir une indemnisation. Voilà, donc j'en aurai terminé sur cette chronique.
Bah, écoute, merci Noémie. Alors, donc, on a mis sur le site de l'April les références, hein, april.org. Dans ta chronique, tu faisais référence à une précédente chronique sur les infractions relatives à l'informatique. Donc, c'est celle du 16 avril 2019. Donc, les gens, le podcast est disponible sur le site. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que le 16 avril, on avait déjà abordé le second sujet long qu'on va aborder tout à l'heure, les chatons. Donc, vous pouvez écouter le 16 avril. On va se retrouver donc pour ta prochaine et dernière chronique avant la pause estivale le 2 juillet. Et donc, je retiens qu'en tout cas, on peut largement critiquer les syndics de copropriété. Et j'imagine bien qu'il y a beaucoup de sites qui sont consacrés à ce sujet assez récurrent, les problèmes avec les syndics de copropriété, souvent dans le cadre professionnel et peut-être des fois dans le cadre bénévole. C'est aussi une solution souvent dans les petites copropriétés de peut-être recourir aux syndics bénévoles. En tout cas, merci pour ta chronique juridique, Noémie. Puis on se retrouve le 2 juillet.
Merci.
Bonne journée. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Reset par John Turr et on se retrouve juste après.
Cause commune. We'll be right back.
Nous venons d'écouter Reset par John Turr, donc c'est disponible sous licence Creative Commons Attribution. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Donc nous allons maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur donc les collectifs des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, autrement dit les chatons. Donc les personnes qui écoutent régulièrement l'émission se diront que c'est la deuxième fois qu'on en parle, vu qu'évidemment, effectivement, le 16 avril, on a parlé déjà des chatons, mais là on va approfondir un petit peu ce sujet passionnant. Donc les invités du jour, au téléphone, Angie Gaudion de l'association Framasoft. Bonjour Angie.
Bonjour Fred.
Avec moi en studio, donc Christian-Pierre Maumont du Chapril, donc chapril.org. Bonjour Christian.
Bonjour.
Également Denis Dordogne d'Infini, donc infini.fr. Bonjour Denis.
Bonjour Fred.
Alors comme je l'ai dit, c'est une deuxième émission sur les chatons lors de la première émission. Et donc les personnes qui n'auraient pas écouté l'émission, je vous le rappelle que le podcast est celui du 16 avril 2019. Donc vous le retrouvez à la fois sur causecommune.fm et sur april.org. Dans cette première émission, on avait plutôt axé la présentation des chatons sur les personnes ou structures qui pourraient avoir intérêt à utiliser les services que l'on va décrire. Dans cette deuxième émission, on va rentrer un peu plus sur la partie, on va dire, participation du collectif chaton, comment créer un chaton, le maintenir. En essayant d'être pas trop technique. Donc voilà, c'est une deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, on va commencer par un tour de table de présentation pour rappeler qui vous êtes. Donc on va commencer par Angie de Framasoft.
Alors, je suis chargée de communication et de partenariat au sein de l'association Framasoft qui propose une trentaine de services libres pour se dégoogliser. Donc des alternatives aux services traditionnels proposés par les GAFAM. Et en parallèle, je coordonne le collectif chaton pour une période de 6 mois.
D'accord. Donc Framasoft, framasoft.org, comme tout le monde le sait, donc une centaine de services. Denis Dordogne.
Oui, donc moi je suis de l'association Infini, donc et la chaton brestois. Les informations sont infini.fr et sinon je suis un militant du logiciel libre, donc c'est pour ça que je suis rentré là-dedans.
D'accord. Christian Maumont, de l'April.
Donc, moi, je suis développeur du libre personnellement et au sein de l'April, je suis membre du conseil d'administration et notamment, j'interviens dans le groupe Chapril, qui est le chaton de l'April.
Donc, chapril.org. Alors, on va commencer par un rappel synthétique. On va essayer de résumer en quelques minutes la première émission sur ce qu'est le projet chaton. Donc, on va peut-être demander à Angie d'essayer de nous faire un rappel sur ce qu'est le projet chaton, à qui il s'adresse, quels sont les services proposés, etc.
Alors Chaton, donc, c'est un collectif qui regroupe une soixantaine d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc qui sont les initiales du coup de l'acronyme Chaton. Parmi ces hébergeurs, ils sont nombreux à proposer des services alternatifs à ceux proposés par les géants du web. Voilà, chaque membre du collectif propose différents services selon différentes modalités, c'est très large dans la façon de fonctionner. L'objectif, c'est de fournir une structure globale via ce collectif qui sera de l'hébergement de proximité, en fait. L'objectif principal, c'est que chaque internaute, chaque citoyen puisse, à proximité de chez lui, trouver une structure qui va lui permettre de découvrir des alternatives, justement, à ces services des géants du web.
Donc un petit peu comme, je crois que c'était peut-être toi qui l'a dernière fois avec employé cette expression, un peu comme les AMAP finalement, des services loyaux de proximité.
Exactement. L'idée, on est parti d'ailleurs de ce modèle-là. Alors il faut savoir que le collectif Chaton a été initié par l'association Framasoft, qui partait du constat qu'en proposant tous ces services libres et gratuits en ligne, reproduisait finalement ce que faisaient les GAFAM, alors à une échelle tout autre, mais quand même avec une centralisation, et qu'il était important qu'on fasse savoir qu'il y a d'autres acteurs que Framasoft sur le territoire qui proposent des solutions soit différentes, soit identiques, mais en tout cas que tout le monde ne passe pas par une seule porte d'entrée. Donc l'idée d'avoir une décentralisation des services et de montrer que justement c'est un ensemble d'acteurs qui les proposent sur tous les territoires.
Christian, est-ce que tu veux compléter sur cette introduction sur les chatons?
Alors c'était très bien, effectivement, on retrouve le fait que Framasoft proposait des services, a prouvé qu'on pouvait proposer des services libres à tout le monde, mais du coup il fallait effectivement passer à une autre échelle, c'est-à-dire que ce ne soit pas que Framasoft qui le fasse, d'autres structures, et plutôt que de dire, de faire un appel en disant débrouillez-vous, allez tout le monde, bougez-vous, ils ont proposé quelque chose de formidable, c'est-à-dire de partager une expérience, une vision avec une charte, avec une structure et aussi un accompagnement qui fait que tous ceux qui veulent mettre des services en ligne ont le moyen d'avoir un repère, une base solide et aussi une sorte de label, une sorte d'identifiant qui fait que tous les utilisateurs peuvent s'y retrouver et plus facilement accéder à des services libres. Donc, super initiative.
Alors, Denis, est-ce que tu peux citer quelques exemples de services majeurs proposés par les chatons ?
Alors, il y a beaucoup des services de Framasoft, donc les pads, les formulaires, des choses comme ça. Après, selon les chatons, leur âge, etc., il y a des gestions de listes de diffusion, il y a des hébergements de sites internet, c'est que chez Infini, on fait de la diffusion de radio en live. Il y a d'autres hébergeurs qui sont plus anciens aussi, comme la Merzaklis ou Marsnet, qui ont aussi des services particuliers, donc... En fait, il y a beaucoup de limites dans les services qu'on peut proposer. On en propose plus que n'importe quel GAFAM tout seul.
Exactement. Alors, on va citer le nom du site de référence, parce qu'évidemment, c'est chaton avec un s.org, sur lequel vous trouvez tous les membres de ce collectif qui offrent donc des services très variés, avec des formats de contribution ou d'utilisation qui peuvent être très différents. Ça peut être une utilisation totalement libre, ça peut être réservé à des adhérents. Voilà, vous allez sur chaton.org et vous retrouvez une cinquantaine peut-être de services différents, je dirais, en fonction de l'ensemble des chatons.
Et les services ne sont pas les mêmes chez tous les chatons. C'est intéressant de pouvoir comparer et d'ailleurs d'avoir une offre différente. C'est-à-dire pour le même type de service, on va avoir des différents logiciels utilisés. Et du coup, ça donne du choix. On n'est pas enfermé, limité au choix défini par une structure. C'est plutôt intéressant en tant qu'utilisateur de ne pas être enfermé.
Tout à fait. Engie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette introduction avant qu'on passe à la présentation, on va dire, du collectif et de la contribution ?
Alors, du coup, parler du site chaton.org sur lequel, en fait, il y a une rubrique qui permet à n'importe quel internaute de trouver, un chaton en fonction de différents critères, en fait. Ça peut être le type de service qu'il recherche. Je sais pas, vous cherchez, par exemple, à avoir une adresse mail alternative, libre. Vous pouvez, du coup, chercher en fonction de ce service. Donc, on peut chercher par ce biais-là. Ça peut être en fonction du type de structure. Vous voulez travailler qu'avec le monde associatif ou que passer par des entreprises ou des coopératives. Donc, on a un module de recherche qui permet de chercher parmi les structures existantes du collectif, celles qui correspondent le mieux à la recherche de l'internaute. Et ensuite, les réponses sont géolocalisées. Donc l'objectif, il est que si par exemple vous cherchez à avoir une boîte mail sécurisée, eh bien on va vous dire quels sont les chatons qui les proposent et surtout on va les placer sur une carte, ce qui vous permettra de trouver le chaton le plus proche de chez vous.
Si je peux le dire, me permettre, le site est vraiment bien fait, il y a plein d'informations, ne pas hésiter à y aller, c'est vraiment accessible.
Bon, donc en tout cas, pour les personnes qui cherchent donc des services, n'hésitez pas à aller donc sur chaton.org avec un S et vous trouverez donc des chatons qui proposent différents services proches de chez vous, donc avec une proximité intéressante, parce que l'un des engagements, et on en parlera sans doute tout à l'heure aussi, c'est de pouvoir recevoir les personnes qui utilisent lors d'apéros, de réunions. Donc la partie proximité est vraiment essentielle. Donc ça, c'est un rappel synthétique. Si vous voulez plus de détails, je vous encourage à écouter le podcast de l'émission du 16 avril 2019, donc, qui est sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune, ou de vous connecter sur le site chaton.org. Là, maintenant, on va essayer un peu plus de parler, de se mettre du côté de la création de chatons, de la maintenance de chatons et du collectif des chatons. Alors, on va commencer par là, on va dire la partie création d'un chaton. Pourquoi créer un chaton ? Comment ça se passe ? Quels services mettre en place ? Alors, peut-être que Denis voudrait commencer sur cette partie-là, avec l'expérience d'Infini.
Oui, alors, Infini, c'est particulier. On faisait déjà des activités de chatons avant que les chatons existent. Donc, c'était facile pour nous de rejoindre le collectif. Après, ce qu'on aime bien dans le collectif chaton, c'est qu'il y a des nouveaux chatons qui se montent. Alors, on a des particuliers, on a des associations, des petits groupements. On a vraiment beaucoup de structures dans le spectre de chatons. Et du coup, oui, pourquoi se lancer un chaton ? Parce que déjà, on va avoir des services qui ne sont pas disponibles ailleurs, ou on a des amis qui cherchent un service à proximité. Ça peut être juste pour soi, qu'on peut le lancer à l'origine, puis pour sa famille, puis l'ouvrir éventuellement plus tard. Ou on peut faire quelque chose de très, très particulier. Je ne sais pas, on a un club de philatélie, On peut très bien dire le monde d'un chaton de finiatéliste. Enfin, vraiment, là, tout le monde peut devenir chaton selon ses besoins.
Christian Bonbon.
Alors, à l'April, c'est un peu différent parce que l'April n'est pas une association qui donne du service à ses utilisateurs, à ses membres. C'est une association d'activisme. Et par contre, quand l'initiative Chaton a été lancée, là, on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait ou pas? C'est pas pour rendre des services aux utilisateurs, c'est pour développer la liberté numérique pour tout le monde. Et donc, ça fait partie de l'activisme de l'April. Et donc, nous nous sommes lancés, effectivement, suite à l'appel du Chaton. Et pour la création d'un chaton, une recommandation, c'est d'aller voir le site chatons.org, parce que effectivement, c'est plutôt bien fait. Et notamment, il y a une page qui explique comment monter son chaton ou et l'introduire dans l'initiative Chatons. Et dans les conseils que je pourrais donner, c'est justement d'aller voir comment sont faits les autres chatons, avec quels produits, chez quel hébergeur. Pour comparer, pour prendre exemple, ou justement pour essayer de faire autrement que ce qui est déjà fait. Parce que ça, c'est important, qu'on n'ait pas tous les mêmes produits, qu'on ne soit pas tous chez le même hébergeur. Voilà. Et que justement, on travaille les alternatives, puisque quand même, le but du jeu, c'est tout ça, c'est développer les alternatives.
Engie, l'un des critères, parce qu'on a parlé de services, mais le fait de proposer des services libres ne fait pas forcément un chaton, ce qui est autre chose de plus. Il y a des orientations, il y a une charte. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ces principes fondamentaux qui font que finalement, on peut devenir un chaton?
Alors, il faut effectivement un certain nombre d'engagements pour faire partie du collectif, qui sont donc transcrits dans la charte des chatons. Alors, il y a 70, je crois, critères différents qui sont demandés, donc je vais essayer de les synthétiser. Bien sûr, là, en fait, on a repris la notion de collectif au sein de chatons. L'ensemble des membres du collectif s'engage du coup à être respectueux, bienveillant de l'ensemble des membres du collectif et aussi des utilisateurs auxquels ils s'adressent. Ça, c'est un critère, on va dire, de base et nécessaire. Ensuite, les membres du collectif doivent proposer des services alternatifs à ceux des entreprises traditionnelles qui sont donc fermées et centralisées, avec donc cet objectif de proposer des services qui sont orientés autour de solutions libres et qui sont mises à disposition de leurs utilisateurs, que ce soit pour des fins personnelles ou collectives. Les chatons ont aussi des engagements en termes de transparence. On va leur demander tout simplement de s'assurer, de confirmer, de s'engager en tout cas, voilà. De s'engager à ce que les données de leurs utilisateurs, l'identité des utilisateurs utilisant leurs services, soit le plus transparent possible. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser, mais on doit faire connaître aux utilisateurs comment ils peuvent du coup être traités par la structure qui les héberge. On leur demande donc un certain nombre de critères à ce niveau-là, par exemple d'avoir des conditions générales d'utilisation très bien décrites et compréhensibles par l'utilisateur ou l'utilisatrice lambda. On leur demande aussi une clause sur les données personnelles et le respect de la vie privée. Donc, on leur demande de décrire quelle est la politique de la structure au regard de ces notions de données personnelles. Chaque membre du collectif s'engage aussi à rendre public ses comptes, ses rapports d'activité. Donc, c'est un élément de transparence supplémentaire. Et puis, bien sûr, à donner des informations techniques sur son infrastructure, ce qui permet à l'utilisateur du coup, de pouvoir s'engager au regard de ces éléments technique. Autre type de critère, tout ce qui relève de l'ouverture des services. En fait, on demande aux chatons d'être des contributeurs à l'univers du mouvement du logiciel libre. Donc, que ce soit techniquement ou financièrement, on va avoir le fait que, vu qu'on est dans un modèle du libre, il faut que les membres du collectif, du coup, soient des acteurs du monde du libre, tout simplement. Ça semble assez évident, mais c'est quand même important. Et donc, on leur demande aussi de lister publiquement les contributions au libre qui sont faites au sein de chaque structure. On essaye de faciliter l'interopérabilité, à savoir permettre à un utilisateur d'un chaton de pouvoir récupérer l'ensemble de ses données pour pouvoir migrer chez un autre hébergeur s'il le souhaite. Et bien sûr, on s'engage à supprimer toutes les informations sur les utilisateurs à la demande de ceux-ci, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Autre élément important, la neutralité. On va demander au chaton d'avoir un comportement indépendant, donc à ne pas pratiquer de censure, par exemple par rapport au contenu, à ne pas surveiller ce que font les utilisateurs et utilisatrices. à s'engager en fait à héberger ces contenus dans les cadres juridiques qui sont prévus par la loi. Et enfin, la solidarité. C'est le dernier point du coup, des engagements des membres du collectif. C'est le fait qu'on est dans un collectif et que c'est important que chaque membre du collectif s'engage à participer à l'organisation et à la gouvernance du collectif. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, mais il y a une volonté que l'ensemble des membres soient présents pour l'organisation du collectif, donc d'une participation ou à l'autre. Le modèle économique des chatons doit être basé sur la solidarité, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas des membres du collectif qui proposeraient des services payants, bien évidemment, mais on considère qu'ils doivent être raisonnables et en adéquation avec les coûts de mise en œuvre, qu'ils ne soient pas surévalués. Bien sûr, on demande aux chatons de s'entraider les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a participer au collectif, mais il y a aussi aider les autres membres du collectif, que ce soit sur des questions techniques, sur des questions marketing, sur des questions, je ne sais pas, de support utilisateur, ce qui permet du coup un échange de connaissances et de compétences au sein des différents membres de chaque structure.
C'est une très bonne présentation. Je vais passer la parole à Christian qui veut réagir, mais je veux juste faire une référence par rapport à l'actualité. Tu as employé un mot que les gens ne connaissent pas forcément, qui est le mot interopérabilité, et qui est important, qui est donc le fait de pouvoir librement quitter une plateforme sans perdre ses données, ses liens sociaux, et de pouvoir continuer à communiquer avec ses contacts, qui paraît essentiel aujourd'hui dans un monde connecté. On voudrait juste rappeler que le nouveau secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a jugé récemment que cette interopérabilité pouvait être considérée comme étant excessivement agressive pour le modèle économique des grandes plateformes. Donc je dis ça pour insister sur l'importance justement des chatons quand on voit qu'un représentant du gouvernement considère que l'interopérabilité, c'est un point agressif pour le modèle économique des grandes plateformes, donc effectivement les géants du web. Christian, bon, tu voulais réagir sur ça ?
Oui, effectivement. La présentation par Angie est très bien. Ça peut effrayer quand on dit qu'il y a 70 points à respecter, que ce sont des contraintes, ça peut paraître lourd. Mais en fait, si on regarde bien, en fait, ça fait un plan. Ça fait un plan qui contient tous les éléments, en principe élémentaires, quand on fait un site web ou une plateforme. Faire une plateforme, tout le monde peut faire une plateforme, mais s'il n'y a pas les mentions légales, s'il n'y a pas les conditions générales d'utilisation, s'il n'y a pas qu'est-ce qui est fait des données des utilisateurs, en fait, c'est une plateforme qui n'est pas déjà forcément très légale, mais aussi pas complète, pas finie. Or là, grâce à chatons.org, la page qui liste toutes ces contraintes, entre guillemets, eh bien, vous avez un plan. Si vous voulez monter un chaton, vous avez un plan qui vous permet de ne rien oublier et très facilement de suivre les points. Ensuite, en tant que chaton et en tant qu'utilisateur de ces chatons, vous allez trouver des éléments de confiance qui vont vous dire « Ah oui, bon, voilà, là, il y a ce qu'il faut pour que ça soit bien ». Donc, il ne faut pas avoir peur du nombre ou de la longueur de la page ou de ce qui est dedans. C'est vraiment fait pour faciliter les choses et avancer.
Alors, il ne faut pas avoir peur, comme tu le dis, de tous ces points, d'autant plus que le site chaton.org propose évidemment de l'aide et il y a la liste de discussion du membre du collectif dont on parlera tout à l'heure. Mais là, j'aurais une question sur la création d'un chaton. Engie a évoqué les CGU, donc conditions générales d'utilisation. Tout à l'heure, Christian a évoqué la partie hébergement, ne pas être hébergé partout. J'aimerais que vous soyez peut-être un peu plus précis, par exemple, sur l'aspect technique. Notamment sur la partie hébergement. Imaginons qu'on soit une structure quelconque, des amis qui veulent monter un chaton. Concrètement, au niveau hébergement, au niveau service, comment ça se passe ? Il faut prendre ses machines, les mettre dans son garage, comme il y a longtemps ? Il faut louer des machines, acheter des machines ? Comment ça se passe ? Et les services, comment on les met en place ? Denis, tu veux réagir ? Denis Dordogne ?
Oui, c'était un moyen de faire, mettre dans son garage, etc. En fait, c'est la première chose à faire, hein, c'est savoir où on va mettre ces machines. Donc on peut très bien les mettre dans son garage, si on a une connexion internet qui est fiable. On peut aller les chercher l'hébergement ailleurs. Donc, ce que fait Framasoft, par exemple, ils ont leur service, est hébergé en Allemagne.
Chez Edsner.
Voilà, j'ai oublié le nom. On peut s'appuyer sur les structures locales pour héberger les services, donc les membres de la FFDN, des fournisseurs d'accès à Internet.
C'est quoi FFDN ? Fédération
ça,
FDN,
voilà,
Fédération Fresh FDN. Data Network, donc une fédération de fournisseurs d'accès à Internet locaux.
Voilà, donc le mieux c'est de passer par des réseaux comme ça. Sinon, il y en a qui hébergent leur machine dans des endroits pas forcément recommandables parce que ce n'est pas des acteurs du libre. Mais bon, c'est faut débuter, quoi. Donc, pour s'entraîner, on peut faire n'importe quoi, mais au moment où on veut vraiment devenir chaton, proposer les choses, il faut vraiment se poser la question et ne pas hésiter à contacter chaton en disant, bah voilà, j'ai besoin de tel espace, quel type de matériel, des choses comme ça, et nous, on les aidera à trouver où héberger.
Et donc, au niveau connaissances techniques, il faut quoi comme connaissances techniques, Christian ?
Ah, il y a quand même des critères techniques à choisir. Suivant les services que vous allez mettre en ligne, vous allez avoir besoin de beaucoup d'espace disque, de beaucoup de mémoire, de beaucoup de CPU ou beaucoup de bandes passantes. Donc ces critères-là, si on s'installe dans son garage, même si on a une fibre optique comme connexion à Internet, les services vont en dépendre. Donc du coup, on peut effectivement soit installer les serveurs chez soi, on peut acheter des machines et puis les faire héberger, on peut louer des serveurs dans des grandes structures qui existent déjà. Je trouve qu'on a un acteur français qui est vraiment reconnu mondialement.
Sauf en France.
Sauf en France.
Tu parles d'OVH, je suppose.
Voilà. Mais bon, après, on peut parler d'autres hébergeurs en France. Il y a online.net, il y a one-to-one, il y a donc des grosses structures qui ont des gros data centers où on peut louer pour quelques dizaines d'euros par mois un serveur. Et puis c'est un peu démarré comme ça. C'est là où il faut se poser les questions, c'est au fait, il est où le serveur ? Parce que si le serveur, par exemple, il est aux États-Unis, bah là, il y a potentiellement une infraction à la charte des chatons, dans le sens où, par exemple, ce serveur va être soumis à une loi américaine qui fait que les données des utilisateurs ne seront pas protégées, entre guillemets, correctement. Voilà.
Alors, le temps que tu réfléchisses, je vais poser une question à Angie. Est-ce qu'il faut que des compétences techniques pour monter un chaton ? Ou quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques peut contribuer à un chaton ? Parce que j'ai bien compris que c'est proposer des services à la base. Mais j'imagine bien que pour poser des services, il ne suffit pas, qu'il y a d'autres compétences qui sont nécessaires. Alors, je ne sais pas lesquelles, mais quelles sont les autres compétences qui pourraient être nécessaires dans un chaton ?
Alors, en plus des compétences techniques, parce que j'insiste, je pense que si on n'a pas de technique au sein dans le groupe de personnes qui souhaitent monter un chaton, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ça demande quand même, du coup, d'avoir des compétences en administration de système qui sont, du coup, pas données à n'importe qui. En revanche, ça suffit pas. Effectivement, on peut être un très bon technicien et pour autant ne pas être en mesure de savoir, designer, du coup, les interfaces des services, typiquement. Donc, on a besoin de gens qui vont avoir des compétences en création de sites web, en mise en valeur, en accès. On va avoir aussi besoin de communiquer sur ces services. C'est bien beau, hein, de créer sa plateforme et d'intégrer le collectif, mais si ensuite on ne se fait pas connaître auprès des internautes, ça va être une limite. Donc derrière, on va avoir des missions de communication, de valorisation de l'offre. Et puis très souvent, chez les chatons, ils proposent aussi des actions parallèles à la fourniture de services hébergés, qui sont l'accompagnement numérique, au sens beaucoup plus large du terme. Là, souvent, il va nous falloir des médiateurs numériques qui seront en mesure d'accompagner du coup des citoyens dans la découverte des services numériques alternatifs. Et puis peut-être encore un élément, le support. Hein, quand on utilise un service, il ne marche pas tout le temps à 100% correctement, ou il marche d'une certaine façon et on est habitué à une autre, et très souvent on a des questions, tout simplement, sur le fonctionnement du service, son utilisation, et donc là il faut avoir quelqu'un effectivement en face qui va pouvoir répondre à tous les questionnements des utilisateurs et des utilisatrices.
Nous à l'April, enfin dans le Chapril, on a identifié trois types de ressources. Il y a les ressources techniques, donc qu'on a vu. Il y a les ressources organisationnelles, parce qu'il faut pouvoir s'organiser pour que tout fonctionne. Mais il y a aussi les ressources humaines, parce qu'il y a de la modération, il y a du rédactionnel, il y a du support.
Attends, qu'est-ce que tu appelles la modération ?
Alors, typiquement, la modération, c'est quelqu'un qui va poster un message qui n'a pas sa place, et il y a quelqu'un qui va demander à ce que ce message soit étudié pour voir s'il est conforme à la charte ou s'il a bien sa place là. Par exemple, si c'est un appel à la haine, il faut donc intervenir pour le gérer.
Alors, ça me fait penser, ce point important, tout à l'heure, Angie a parlé des CGU, donc des conditions générales d'utilisation. Un point essentiel est d'avoir des CGU très clairs qui précisent le contexte du chaton, et notamment le statut d'hébergeur par rapport à la loi française. Tout à l'heure, Noémie Berger, dans la première chronique, parlait de la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique. C'est très important pour la responsabilisation des différents acteurs de préciser ça dans les CGU. Et là, ça peut peut-être faire peur, mais il y a des CGU exemples. Alors, à l'April ou Chapril, on est parti des CGU de Framasoft qu'on a légèrement adapté, mais ça, c'est un point important, cet aspect vraiment responsabilisation. Et donc aussi modération côté humaine. Je suppose que côté, et je te repasse après la parole, Christian, je suppose que côté Framastov, comme vous êtes historiquement les premiers à avoir lancé des gros services, et donc vous avez eu beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices, je suppose que c'est un, alors je ne sais pas si c'est un travail à temps plein ou à temps partiel,
c'est
de simplement de modérer les contenus.
Oui, nous on a du coup un salarié à temps plein dans l'association qui est en charge du support global, donc sur l'ensemble de nos services. Donc c'est vrai que c'est très large, mais ensuite on a une équipe de modérateurs sur nos services médias sociaux, parce que c'est très très différent du coup de faire du support sur des services qu'on utilise a priori tout seul et donc qui sont pas mis en relation avec d'autres utilisateurs, et en revanche ce qui se passe sur Mastodon et Diaspora en l'occurrence, où là il y a besoin d'un travail de modération qui est très très différent des autres services.
Christian, puis après on va faire
une petite
pause musicale.
Et donc là, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin que de techos ou de gens qui font de l'informatique pour participer à un chaton. Il faut savoir rédiger des notices de présentation des services. Il faut savoir répondre en support au courriel des gens qui nous posent des questions. Et puis, effectivement, il faut pouvoir regarder, si on a un service de médias sociaux, de pouvoir vérifier que tout est conforme au règlement et à la loi. Et il ne faut pas avoir peur de cette histoire de loi qui oblige l'hébergeur, etc. On n'a pas à vérifier chaque message dans la minute. On a un devoir de faire quelque chose, donc dans un temps raisonnable. Et on voit que ça, ce n'est pas forcément fait par des informaticiens. C'est aussi une façon de faire les choses avec des non-informaticiens. On non-informaticiens dans les chatons.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre notre discussion. Nous allons écouter Eger par Stone from the Sky et on se retrouve juste après.
Cause commune. We'll be right back.
Eiger par Storm from the Sky, qui est disponible sous licence. Alors, à la fois Creative Commons se partage dans les mêmes conditions et licence art libre. Et vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vais répondre à la première question du quiz avant d'oublier, contrairement à la semaine dernière. La question, c'est d'où vient le nom Framasoft ? Eh bien, Framasoft est un projet qui est né en 2001 et ça vient au départ d'un projet qui s'appelait Framanet, qui signifiait français et mathématiques sur intranet. Ça avait été créé par deux enseignants et je félicite Cousine, donc, qui est sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, qui a donné la bonne réponse. Donc nous allons poursuivre notre discussion sur les chatons, donc avec nos invités, donc toujours Angie Gaudion de Framasoft, Christian-Pierre Maumont du Chapril et Denis Dordogne de d'Infini. Donc framasoft.org, infini.fr, chapril.org et le site des chatons, ou chatons comme prononce Christian, c'est chaton avec un s.org. Alors, juste avant la pause, on parlait un petit peu des services et puis aussi de la modération et de l'importance de bien choisir ses services et donc de certains services qui nécessitent peut-être plus de modération. Et évidemment, les parties réseaux sociaux nécessitent beaucoup plus de modération que d'autres services. Donc ça peut faire partie d'un des critères de choix quand on met en place des services. Donc on va peut-être y revenir si on a le temps dans la discussion. Mais là, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le collectif. Parce que ce qui est un point fort de cette démarche, c'est qu'on n'est pas tout seul dans son garage, comme on disait tout à l'heure, à monter son chaton. On a l'aide d'un collectif avec différents outils. Alors, Angie, donc, tu disais en introduction que tu étais l'animatrice du collectif pour 6 mois, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
D'accord. Est-ce que donc tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce collectif et qu'est-ce qu'apporte ce collectif, notamment aux nouvelles personnes qui veulent monter des chatons?
Alors, le fonctionnement du collectif est relativement peu précis dans ses fonctions. Il s'agit avant tout de solidarité entre les membres du collectif et d'organisation, de temps, de discussion, d'échange sur l'évolution du collectif ou l'évolution de certains processus au sein de ce collectif. Alors, le travail est grand, puisqu'il y a aussi un enjeu de visibilité du collectif vis-à-vis de l'extérieur, donc un gros travail de communication et de diffusion de ce que sont les chatons globalement et de ce que peuvent être chacun d'entre eux à l'intérieur de ce collectif.
Et dans les outils donc, que le collectif propose, donc, il y a quoi ? Il y a la liste de discussion, il y a un espace de documentation partagée qui est un wiki et il y a des réunions ?
Et il y a aussi un forum.
D'accord.
Ces différents outils sont accessibles même aux non-membres du collectif. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités aux membres du collectif. Bien sûr, on y parle de choses qui concernent le collectif. Donc, j'allais dire, quelqu'un d'extérieur ne sera pas forcément hyper intéressé par tous les sujets. Mais c'est assez intéressant, par exemple, pour une structure ou un groupe d'amis qui envisage de devenir chaton, de passer un certain temps sur ces outils en amont, avant même de penser tout simplement les services qu'ils vont offrir, pour s'imprégner de l'ambiance du collectif, des grands enjeux du collectif et demander de l'aide aussi quand ils ont besoin pour mettre en place leurs infrastructures ou leurs interfaces de support, etc., etc.
Christian, oui.
Et je confirme que c'est très vivant, la liste de discussion est assez active, les gens répondent. Pareil, quand on a des réunions, alors on profite très souvent des événements libristes qui existent, que ce soit les journées du logiciel libre à Lyon, que ce soit les rencontres mondiales du logiciel libre qu'il y a eu à Strasbourg. Très intelligemment, proposé lors de ces événements de profiter de l'occasion pour se réunir, pour s'encontrer, justement. Et en général, c'est très convivial et très constructif.
Et Denis, tout à l'heure, toi, tu parlais, ou pendant la pause, tu me parlais du wiki, qui est un espace de documentation, notamment quand on parlait tout à l'heure des CGU. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi sert ce wiki ? Est-ce qu'il y a un wiki aussi ?
Alors, un wiki, c'est un espace où on peut tous collaborer pour travailler ensemble, comme Wikipédia. Et le wiki, il a été lancé par des non-chatons, mais il a été lancé avant les chatons eux-mêmes. Donc, pour expliquer là où on a besoin de conseils quand on n'y connaît rien, donc il y a toute une partie juridique, notamment, qui explique bien la loi de confiance en l'économie numérique dont on parlait tout à l'heure. On a aussi des informations techniques, qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on n'y connaît rien pour lancer des services, des choses comme ça. Et puis après, il y a aussi des membres des chatons qui font de la doc de leur côté un peu partout. Et puis moi, si on m'invite, et qu'on me paye à boire, je peux venir vous expliquer les choses, il n'y a aucun souci.
Donc invitation lancée, et ça me fait penser que, Denis, tu as rédigé il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, sur linuxfr.org, un article démythifiant un petit peu l'hébergement. Donc les références sont sur le site de l'April, april.org, c'est une lecture tout à fait utile. Dans le collectif, aujourd'hui, en NG, il y a combien de chatons qui sont inscrits?
Alors, j'ai regardé tout à l'heure, là, on est à 60. Voilà, il y a 60 membres du collectif, et puis on est du coup dans une phase un peu particulière d'analyse des candidatures pour de futurs chatons. Donc potentiellement, on en aura davantage d'ici un mois.
Donc c'est un point intéressant. Comment se passe la candidature à un chaton, et comment se fait le choix d'accepter un nouveau chaton dans le collectif?
Alors si une structure, un collectif, peu importe la forme en fait, souhaite devenir chaton, il y a un ensemble d'éléments. On a une page sur le site chatons.org qui s'appelle Rejoindre le collectif, tout simplement, qui rappelle les critères principaux, quand même, disant si vous ne rentrez pas dans ces critères-là, c'est même pas la peine de candidater pour rejoindre le collectif. Et ensuite, on a effectivement une incitation à parcourir la documentation donc, de notre wiki pour avoir un certain nombre d'éléments de réponse qui permettra de proposer des services qui seront validés justement dans le cadre du collectif. Et ensuite de se présenter au sein des différents outils du collectif, donc que ce soit la mailing list ou le forum, et bien sûr de créer sur le site chatons.org la présentation de sa structure. Voilà. Ça, c'est la candidature, et elle se termine par tout simplement une issue sur notre dépôt Git, qui permet, en fait, c'est l'endroit où on va voter, où l'ensemble des membres du collectif vont pouvoir dire s'ils sont d'accord ou pas avec cette candidature, mais c'est aussi un lieu d'échange où on va dire, tiens, il me semble que votre candidature, il lui manque tel aspect ou tel aspect, donc ça permet d'interagir via cette interface sur Git, qui donc est un logiciel, pour le coup, pas vraiment fait pour les gens qui connaissent pas le développement informatique.
Petite question, mais enfin, on va revenir sur le collectif, mais ça me fait penser tout à l'heure une question sur on a parlé de la création d'un chaton qui vont être utilisés par des personnes, sans doute sur le long terme. Comment on gère cet engagement en tant que chaton sur le long terme, notamment la maintenance du chaton, parce que beaucoup repose sur des forces quand même bénévoles. Voilà, c'est un engagement fort. Comment on gère ça, Christian?
Eh ben, il faut avoir des animateurs, des gens motivés qui regroupent d'autres gens motivés et qui font par exemple des camps, hein, un week-end pour travailler sur les services et les améliorer, comme on a fait le week-end dernier à l'April. Recruter, puis avoir une équipe cohérente, hein, avec un aspect organisationnel que je citais tout à l'heure.
D'accord.
Non mais là après c'est la fascination de l'organisation humaine, c'est pas forcément évident. Alors par rapport au collectif, comment on sait que ça vit encore, par exemple avec les chatons? Et ben il se trouve qu'il y a régulièrement un questionnaire à mettre à jour pour déclarer les nouveaux services ou les évolutions de fonctionnement du chaton. Donc ça, c'est au sein du collectif, donc ça aide aussi, ça donne un repère pour continuer à communiquer et puis à se maintenir à jour.
Oui, et puis tout à l'heure, quand Angie parlait de l'interopérabilité, c'est une des garanties, entre guillemets, en tout cas très fortes, c'est la possibilité de récupérer ces données et de changer de chaton. Si tout d'un coup, le chaton disparaît ou en tout cas arrête ses services, ou si on n'est plus en accord avec l'usage de ce chaton, et donc d'aller voir un autre chaton ailleurs qui propose des services similaires avec donc une interopérabilité entre les systèmes que malheureusement le gouvernement français ne semble pas comprendre l'importance. Denis Dordogne, Infini, ça fait combien de temps que vous proposez des services?
Encore l'année prochaine.
Et vous n'en avez pas marre?
Non, on est très content.
D'accord. Et vous avez, est-ce que vous avez noté des nouveaux types d'utilisation ou de personnes qui utilisent? Est-ce que les personnes du grand public, vous en avez de plus en plus ou pas du tout?
Alors nous, c'est particulier vu qu'on fait aussi de l'accompagnement de publics un peu exclus du numérique. Donc, on a des personnes âgées, des handicapés, enfin, il y a un peu de... Donc, nous, forcément, on a des publics un peu différents. Et Infini, c'est surtout une question qui donne des services à d'autres associations. Donc, il y a une centaine d'associations à Brest, je crois, qui sont adhérents chez nous. Et du coup, on n'est pas forcément les plus représentatifs des chatons pour les services. Après, nous, On est là aussi pour aider d'autres à se monter. Et typiquement, en fini, on refuse des utilisateurs parce qu'on a un usage non commercial, on a des règles un peu compliquées. Et on les redirige systématiquement vers les chatons quand ils ont des gros besoins de stockage. Par exemple, on ne fournit pas une activité commerciale, on ne fournit pas tout ce qu'on ne peut pas donner. Les autres chatons existent et si d'autres chatons arrivent, on les conseillera sans aucun souci.
D'accord. Christian, tu voulais rajouter quelque chose ?
Alors, par rapport à la maintenance et à l'exploitation, sur le long terme, comment on fait en sorte que ça fonctionne durablement ? Eh bien, il y a aussi le choix des services. C'est-à-dire qu'il y a des services, on prend un produit, on l'installe, et puis on se dit, on l'a fini. Non, en fait, c'est là que ça commence. Il se trouve qu'il y a des services qui sont plus ou moins aboutis, des produits qui sont plus ou moins aboutis, donc plus ou moins facilement maintenables pour faire les mises à jour, etc. Ces services, ça fait partie de ce qui aide à tenir longtemps. Et puis, il y a un phénomène qui vient quand même, qui est nouveau. Typiquement, on tient des stands à April dans plein d'événements. Et maintenant, on vient nous voir à cause du chat-pril. Oui, il paraît que vous avez un chaton, comment ça se passe, etc. Donc, il y a des gens motivés intéressés pour participer. Et ce qui est très intéressant quand on participe au fonctionnement d'un chaton, que ce soit d'un point de vue technique ou pas technique, c'est la découverte des services. Parce que du coup, à partir du moment où on met en place un service et qu'on s'en occupe, on va devoir rentrer dedans un petit peu, voir comment il est fait, qui c'est qui le gère, si on a à lui remonter des éléments de personnalisation ou des nouvelles fonctionnalités ou des bugs, du coup, on va rentrer en contact avec l'équipe. Et il y a des nouveaux liens qui se créent et on monte en compétences. Et typiquement, le week-end dernier, il y a quelqu'un qui est venu en disant, moi je suis admin 6 dans la vie et il y a un service que je ne connais pas du tout et vous allez le mettre en place et en fait je suis très intéressé de participer parce que moi ça va me permettre de monter en compétences. Et du coup, on a un animateur de service supplémentaire qui nous rejoint et qui va permettre de s'occuper de la plateforme.
Alors Denis, puis après je repasse une question pour Nunji. Vas-y Denis.
Oui, juste préciser sur la pérennité du service. C'est vraiment quelque chose dont les chatons doivent se méfier parce que des fois il y a des gens qui sont très motivés pour mettre en place des services, très amis service maire et du coup ils n'ont plus du tout envie de s'en occuper. Donc ça c'est vraiment un risque. Il faut vraiment avoir des gens qui sont prêts à installer mais prêts à maintenir derrière. C'est pas forcément ce qui est plus facile à trouver. Et autre chose, on a aussi des chatons qui sont dans des écoles, dans des structures qui changent tous les ans d'animateurs. Il faut être sûr qu'on sera capable de faire le transfert de compétences, avoir les bons outils pour ça, parce que pour pas qu'on se retrouve en septembre avec un service qui n'est plus rendu.
Alors moi, j'ai le plaisir de voir qu'effectivement, une fois qu'on a bien mis en place les choses, en fait, les actions de maintenance, de mise à jour, etc., sont relativement légères. Enfin, dans l'expérience Chapril, pour l'instant, moi, j'avais peur que ce soit effectivement une grosse charge de travail pour les animateurs de service au Chapril. Et j'ai pour l'instant le plaisir de voir que c'est pas des grosses charges de travail. C'est récurrent. Par contre, ça, il faut faire attention de façon très régulière. Mais ça va, c'est vraiment gérable. Et du coup, l'activité reste plaisante. Mais il faut penser effectivement que c'est pas juste un investissement ponctuel. C'est un investissement sur le long terme. Absolument.
Il faut penser que quand il y aura de plus en plus d'utilisateurs et d'utilisatrices du Chapril, il y aura de plus en plus de demandes de support. Voilà, parce que pour l'instant, c'est un petit château en démarrage. Maintenant, on va terminer sur un petit partie vraiment l'actualité du collectif, parce que c'est un point vraiment essentiel. Comme je pense que les personnes qui nous écoutent doivent bien comprendre qu'au-delà des services proposés par chacun des chatons, le point essentiel, c'est quand même ce collectif. Et c'est pas forcément toujours évident d'animer un collectif et de faire vivre un collectif. Donc, Angie, quelle est l'actualité du collectif ? Donc, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait une portée de chatons qui allait arriver début juillet. Est-ce qu'il y a d'autres actualités en cours dans les semaines ou dans les mois qui viennent?
Oui, alors là, c'est des outils plutôt à terme, mais je crois que c'est Denis qu'on a parlé tout à l'heure, ou Christian, enfin bref, peu importe. Vision collective annuelle, donc c'est l'idée que l'ensemble des membres du collectif vont se réengager annuellement, du coup, et mettre à jour, on va dire, les informations à l'intérieur du site chatons.org. Ce qui nous permet de voir effectivement s'il y a eu des mouvements dans les services proposés, ce qui nous permet ensuite de tirer des stats aussi en se disant « Ah bah tiens, tel type de service, en fait, il n'y a personne qui le propose » ou « Ce type de service, tout le monde le propose, est-ce que c'est bien nécessaire en termes de répartition tout simplement de la charge ?» Un outil vraiment important qui prend beaucoup de temps à fabriquer et surtout à analyser derrière. Donc voilà, là, je suis en train de travailler sur l'analyse des réponses qui permettra d'avoir effectivement des grandes orientations. Ça nous permettra de savoir qui dans le collectif fait quoi et comment. Ensuite, on va travailler pendant l'été sur la refonte du site internet chatons.org. vous disiez qu'il était très bien, je vous remercie. Je pense qu'il mériterait quand même quelques améliorations, puisqu'on a quand même quelques remontées d'utilisateurs de ce site, n'arrivent pas à trouver les informations qu'ils cherchent. Donc on va travailler davantage sur des processus de d'UX, alors je précise, voilà, d'expérience utilisateur. Donc on va travailler avec des utilisateurs pour analyser la façon dont ils se déplacent au sein de ce site web et comment ils arrivent à trouver l'information pour essayer de le rendre plus lisible, plus visible et plus attractive, en fait, tout simplement, au niveau des contenus.
D'accord, donc ça, ça avait été avec donc, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux chatons qui vont arriver. Oui. Pour terminer, peut-être un petit tour de table, peut-être sur votre actualité, vos projets ou vos besoins en termes de chatons. Alors, Denis, à part être invité à faire des présentations pour boire des coups, est-ce qu'Infini a des besoins ou une actualité ?
Non, la grosse actualité, c'est que demain soir, on vote pour les chatons candidats. Donc, s'il y en a qui veulent savoir quoi ça ressemble, ce genre d'activité, ils peuvent se présenter sur le canal des Infinis de Freenode.
Freenode, on mettra le lien sur le site de l'April pour, voilà, pour trouver ce salon. D'accord. Donc, pas d'actualité, pas d'événements à venir cet été ?
Pas de compte.
De rencontres ?
Non, c'était le barbecue la semaine dernière, mais vous l'avez raté, dommage.
D'accord. Alors, l'un des avantages, merci Denis de citer un barbecue, l'un des avantages des chatons, c'est les rencontres festives ou en tout cas de proximité. Vous pouvez rencontrer les chatons. On fait un apéro mensuel à Paris, puis il y en a d'autres, donc à Montpellier, il y en a à Marseille de temps en temps, et c'est la même chose dans tous les chatons, c'est un des engagements très forts de proximité. Donc, Christian Momont, justement, pour le Chapril ou pour...
Le Chapril, l'actualité, c'est que nous avons donc trois nouveaux services qui sont vraiment en cours de déploiement, enfin d'installation. Et donc, on espère bientôt annoncer leur déploiement au public. Je pense au plus tard, en septembre, on aura de jolies annonces. En attendant, vous pouvez venir nous rencontrer, effectivement, au prochain apéro April. Vous trouvez les informations sur april.org.
Celui de Paris, c'est le 28 juin 2019.
Voilà. Et il y a aussi passage en scène bientôt, à la fin du mois. Il y aura un stand April présent. Donc, vous venez nous rencontrer, poser des questions sur Chapril. Vous serez les bienvenus. Et si vous êtes intéressé par devenir animateur d'un service Chapril, participer à l'organisationnel, à la modération, nous recrutons. Vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de vous. Et c'est super sympa.
Merci de ne pas trop taper sur la table. En tout cas, on recrute. Passage en scène, donc c'est à Choisy-le-Roi. Je n'ai pas les dates en tête, mais c'est fin juin. Donc Choisy-le-Roi, c'est dans la banlieue proche de Paris. Angie, pour terminer, donc, quelle est l'actualité du collectif ou même de Framasoft ? Voilà, si tu as des annonces à faire passer, tu peux.
Alors, sur le collectif, on a déjà dit, a priori, des choses qui vont arriver, pas tellement. Chez Framasoft, on est en train de faire une collecte pour un futur service. Voilà, qui a priori de toute façon existera, qui s'appelle Mobilisons. Donc un nouveau service libre dont l'objectif c'est de permettre aux internautes de se rassembler, de s'organiser, de se mobiliser en dehors des événements Facebook ou Meetup. Et puis on est en train de travailler à un gros travail de modération sur nos réseaux sociaux. Voilà, parce que du coup, on a beaucoup de soucis avec une partie de nos utilisateurs. Donc, on monte des équipes de modération actuellement plus abouties, avec des codes de conduite un peu plus définis. Et voilà, c'est des choses qui vont impacter, en tout cas positivement, nos services à terme.
Eh bien, c'est de belles perspectives en tout cas. Écoutez, je vous remercie. Donc, l'émission donc a été consacrée, comme on dit, donc le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc avec Christian Pierre Momont du Chapril, chapril.org. Merci Christian.
Merci.
Avec Denis Dordogne d'Infini, donc infini.fr. Merci Denis. Et par téléphone, donc Angie Gaudion, donc de Framasoft, framasoft.org. Merci Angie.
Merci.
Donc, je vous souhaite une belle journée. Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Plus haut par Sucre Pop. Et on se retrouve juste après. Commune.
Depuis des années, cette idée de sangler d'autres horizons, de me tirer, de me casser. Une envie qui ne fait qu'augmenter en purée. Une envie qui me ronge, me fait délirer. Même les plus fortes chaînes, je saurais les briser. Pas un problème que de tout quitter. Car enfin je m'emmène où je rêvais d'aller. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que les plus hauts nuages. Plus haut, plus haut, si haut, si haut que de ce voyage. Jamais je ne reviendrai. C'est pas que je sois mal, mais ici je m'ennuie. J'ai vu d'autres pays, ailleurs c'est comme ici. Je lève les yeux au ciel vers l'espace infini. Je l'entends qui m'appelle, je m'envole vers lui. Plus haut que les plus hauts nuages. Plus haut, si haut que de ce voyage. Jamais je ne reviendrai. Et c'est ce qui me plaît. Plus haut, plus haut, plus haut que les plus hauts nuages. Plus haut, si haut. Jamais je ne reviendrai, mais c'est ce qui me plaît.
Nous venons d'écouter Plus haut par Sucre Pop, qui est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Vous êtes sur Cause Commune, sur 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April, annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait sa com' » de ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella.
Bonjour à tout le monde.
Alors la chronique du jour est consacrée au thème du retour d'expérience de l'animation d'un stand de l'April lors d'événements. Et comme l'émission est bien faite, nous sommes de nouveau en compagnie donc avec Christian-Pierre Maumont et Denis Dordogne de l'April.
Bonjour.
Isabella, c'est à toi.
Merci. Donc effectivement, c'est pratique. On a nos invités déjà à côté et c'est toi. Tous les deux, en fait, sont là en tant que membres actifs de l'association April et en particulier ceux qui sont très engagés sur les événements, sur les nombreux événements auxquels l'April participe au cours de l'année, parce que la sensibilisation se fait par le biais de plein de moyens différents, mais c'est un moment important sur les stands parce qu'on a la possibilité d'encontrer physiquement les personnes, donc c'est un échange plus simple, plus immédiat. Et l'April participe à plein d'événements différents, ça peut être des événements libristes grand public, comme le Capitole du Libre à Toulouse, les Journées du Logiciel Libre à Lyon, ça peut être des salons professionnels, comme le Paris Open Source Summit, toujours à Paris, ça peut être des événements grand public de types différents, comme par exemple la Grande Braderie de Lille, la Fête de l'Humain à Paris ou différents événements autour du mouvement Alternativa. Donc moi j'aimerais aujourd'hui poser quelques questions à Denis et à Christian pour en savoir plus sur comment ça se passe, l'expérience d'un sensibilisateur sur un stand. Et je voudrais commencer par vous demander quels sont les sujets qui intéressent le plus les personnes qui viennent sur nos stands. C'est-à-dire, voilà, il y a le stand de l'April, une personne s'approche, peut-être parce qu'il y a, un décor ou des dépliants ou des affiches qui attirent l'attention. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans l'échange ?
Alors, pour répondre simplement, ça se passe bien, parce qu'il se trouve que nous avons effectivement plein de matériel, plein de supports de communication. Il faut dire que l'invité qui est vraiment maîtrisé et bien préparé par notre corps s'il y a de chance. En général, il y a une valise qui est prête la veille des événements, avec plein de matériel, et quand on arrive sur un stand, on a plein de choses à mettre sur le stand, et ce qui fait que quand on vient juste tenir le stand pour accueillir les visiteurs, et en fait, on a plein de choses avec nous qui attirent d'ailleurs l'attention, l'œil des visiteurs, et qui fait qu'on va pouvoir leur donner plein d'informations, et après ils vont pouvoir repartir avec des choses, avec des éléments bien concrets. Donc déjà, l'aspect organisation au préalable de l'événement, ça c'est quelque chose de fondamental, et on a de la chance, c'est super bien fait. C'était quoi la question ?
Qu'est-ce qu'ils vous demandent les gens quand ils arrivent sur les stands ? Qu'est-ce qui les intéresse ? Qu'est-ce qu'ils vont poser comme question ?
La plus grande question qu'on a, la plus fréquente, c'est est-ce que je peux prendre des autocollants ?
C'est vrai
que ça attire les gens, mine de rien, d'avoir des petits supports de communication comme ça. Et du coup, là, on peut leur parler, vu qu'on a des autocollants sur les dangers contre le logiciel libre. Donc, on peut leur demander s'ils comprennent ce que c'est le danger, pourquoi c'est dangereux. Donc, c'est vraiment un sujet de conversation intéressant. Après, ça dépend des publics, hein, vu qu'on a des salons destinés à des gens qui sont déjà dans la technique. Donc, ils viennent plus nous poser des questions sur c'est quoi l'April, est-ce que je peux vous rendre service jusqu'à récemment, on leur disait on ne fait pas de technique, maintenant il y a le Chapril. Et sinon, il y a aussi des salons professionnels, on fait le solution.
Paris Open Source, Open Summit, Source Summit, qui a lieu en novembre ou décembre, début décembre. Oui.
Là, c'est un salon professionnel, donc on voit des gens qui cherchent ce qu'on vend, qui ne comprennent pas trop ce qu'on fait là. Non, mais il faut le dire. Et sinon, il y a quand même les salons grand public où là, on est obligé d'aller chercher les gens parce qu'ils ne viennent pas forcément nous voir. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, la fête de l'UMA, les événements grand public. J'étais la semaine dernière encore au Geek Ferries.
Il est vrai qu'il y a des événements plus grand public, comme tu citais, la fête de l'UMA, la Grande Braderie de Lille, où les personnes ne sont pas forcément au courant de ce que c'est le logiciel libre. Mais c'est un public quand même qui peut être très curieux. Ça m'est arrivé à moi-même de voir des personnes qui ne se connaissaient pas, et finalement, dans l'échange, on voit que ça leur plaît, ça leur intéresse, et ils ont envie d'approfondir.
Moi, le sujet principal que les gens ont sur notre stand, c'est le fait que c'est possible. En fait, ils repartent en se disant « Ah, ça existe, c'est possible, je peux faire tout ça, utiliser des logiciels libres, participer à un projet ». Voilà. Et récemment, depuis peu, on vient nous demander de participer au Chapril. Oui.
Ah, ça, c'est très bien. Donc, on arrive aussi à recruter sur les stands. Ça sert pas seulement à sensibiliser, mais aussi à recruter des personnes pour nous aider avec nos services. Quelles sont les idées reçues les plus fréquemment entendues sur les stands ?
Ce que je disais là, c'est que l'informatique, c'est pas pour les gens, c'est pas pour eux. Là, ils découvrent que c'est pour eux, et qu'en plus, il y a tout un pan d'informatique dite libre qui leur donne des libertés numériques plutôt que de les gaver comme des moutons chez des gros GAFAM.
D'accord. Moi-même, ça m'est arrivé. D'accord, je suis d'accord. Ça me plaît cette démarche. Je veux le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour la mettre en place finalement ? Donc voilà. Là, on a la chance, on a plein d'outils.
On peut les dire. Du libre, on a des supports, on a des super affiches, des sites web d'information, des brochures. On a tout ce qu'il faut. Et c'est ce qui les étonne le plus, c'est de pouvoir se dire mais je suis pas venu pour rien.
Exactement, c'est-à-dire le stand de l'April, ça peut être aussi un point de contact déjà pour expliquer les principes et la philosophie du logiciel libre, mais après on est en mesure aussi de diriger, d'orienter les personnes vers d'autres services, par exemple un chaton, ou vers des groupes d'utilisateurs et utilisatrices qui peuvent les aider à installer ou paramétrer des logiciels.
L'orientation est une des activités principales.
Exactement.
Du stand.
Exactement, ça fait partie en fait sensibilisation et orientation, tout à fait.
L'idée la plus reçue quand ils arrivent, c'est « non mais moi je ne peux pas faire ça, mais il n'y a que les GAFAM qui existent ». Il n'y a que Google, il n'y a que Microsoft, il n'y a que ces services-là. Moi, je ne peux pas faire autrement. Ils me prennent, je sais. Alors aujourd'hui, le public est beaucoup plus conscient que leurs données personnelles sont complètement pompées de tous les côtés. Par contre, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire quelque chose. Et donc là, ils se disent « Ah bon, alors c'est possible, même moi, je peux !» et du coup, en les orientant, et après, ils peuvent, voilà, ils ont des nouvelles voies à explorer, seuls ou une prochaine fois, lors d'un prochain rendez-vous.
C'est bien ce que tu viens de dire, tu as noté une évolution dans le type de questions, c'est-à-dire les personnes semblent plus conscientes maintenant voilà, des dangers qui peuvent être aussi liés à l'exploitation de leurs données personnelles.
Oui.
Donc et effectivement, c'est la question, Denis, est-ce que tu as observé toi aussi, par exemple, une évolution dans le discours, des questions qui n'étaient pas posées avant et qui sont plutôt posées maintenant ?
Bah, la différence maintenant, c'est quand les gens ils arrivent, quand on leur dit « vous connaissez le logiciel libre », souvent ils disent « oui ». Bon, souvent, ils se trompent.
C'est une bonne nouvelle.
On leur demande. Mais ils sont au courant qu'il y a des logiciels libres qui existent. Ils savent que la liberté, c'est important. Et du coup, ils arrivent souvent en disant « je connais déjà ». Puis ils repartent avec beaucoup d'informations et connaissant vraiment. C'est vraiment ça qui a changé aujourd'hui.
Et je pense que ça vous fait plaisir. Ça veut dire que le travail que l'April et plein d'autres associations dans le libre arrivent à faire un peu. Et aussi l'actualité, bien évidemment. C'est aussi l'actualité qui fait peur aux gens. Mais n'importe. L'important, c'est qu'il y ait cet échange et qu'ils puissent avoir encore plus d'informations sur le sujet.
Alors moi, il y a 10 ans, mon ressenti, c'est qu'ils venaient dans une démarche personnelle de réaliser un projet, de monter quelque chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils viennent plus en réaction aux agressions des GAFAM. Ils voient que leur vie numérique est complètement enfermée, exploitée, et en réaction, ils cherchent quelque chose. Donc, c'est un peu négatif. Bon, ce qui est formidable, c'est que du coup, on peut leur apporter plein
de
solutions.
C'est une position de défense, en fait.
Voilà, ils viennent en réaction à. Et vu le nombre de scandales dans le numérique aujourd'hui, mondialement, c'est pas étonnant. Mais du coup, la motivation pour laquelle ils viennent a un peu évolué. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut justement leur dire « Mais oui, il existe des alternatives, vous pouvez faire des choses très simples, sans être informaticien, pour recouvrir votre liberté numérique et partageons. Voilà. »
Il y a de plus en plus de personnes, ça j'ai remarqué, qui connaissent par exemple les services de Framasoft, donc les services alternatifs. Là, maintenant, on pourra dire, mais il y a des services proposés par d'autres chatons, par d'autres groupes. Mais c'est vrai que c'était très, très important. Même les personnes qui ne se connaissent pas, et j'ai entendu parler quand même de Framadate, d'autres choses. Donc, très bien. Donc, le temps court vite. J'avais pensé à cette question. Est-ce qu'il y a des questions de réaction qui vous ont récemment, ou pas récemment d'ailleurs, mises en difficulté ? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre sur le stand ? On ne sait pas trop quoi dire.
C'est pas tout de suite répondre sur le stand. Ce que j'ai souvent maintenant, c'était très rare avant, c'est des gens, quand on leur explique le logiciel libre, etc., ils disent « Oui, mais moi, je suis peintre, moi, j'écris, je ne veux pas que ce soit du libre parce que les gens, ils vont faire ce qu'ils veulent avec ce que je fais, je ne veux pas qu'ils gagnent de l'argent par rapport à ce que je fais. » Et du coup, expliquer l'importance de faire du libre en dehors du logiciel, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. Et bon, je leur explique, bah oui, les gens qui font du logiciel, ils pensent comme vous, ils ne veulent pas que ce soit dévoyé ce qu'ils font, ils ne veulent pas forcément que des gens se fassent de l'argent, mais apporter à la communauté, c'est suffisamment agréable pour ne pas avoir à se poser ce genre de questions.
Et Christian, toi, tu as un exemple peut-être, une anecdote ?
Alors, il y a des sujets qui sont difficiles, parce qu'on oriente, on apporte des solutions, des voies de liberté, mais il y a des sujets qui sont difficiles. Le téléphone portable, l'éducation nationale, les moteurs de recherche. Des solutions 100% libres, on n'a pas forcément un beau paquet tout prêt où tout est libre à 100%. Donc des fois c'est difficile d'y répondre. Et puis quand vous avez des gens qui viennent vous voir, par exemple, est-ce que dans leur école, à la rentrée, ils vont avoir une messagerie Google alors qu'ils sont étudiants, ça fait mal. Voilà, ça fait mal, mais il y a de la frustration, mais il y a toujours des moyens, des solutions, des informations à donner pour essayer de minimiser les problèmes.
Finissons en positif. Ça, c'était une note. Finissons en positif. Si vous participez autant de stands, c'est parce que ça vous plaît, c'est parce que ça vous motive. Est-ce que vous pouvez dire chacun une courte phrase pour convaincre d'autres personnes à nous aider sur les stands pour promouvoir notre cause ? Denis ?
Rencontrer les adhérents de l'April, rencontrer des publics que vous ne connaissez pas, rencontrer d'autres associations du libre qui sont souvent là à côté de nous. C'est vraiment une occasion d'être dans le milieu du libre et de s'amuser.
Très bien, Christian.
C'est enthousiasmant, c'est facile parce que bien préparé par notre merveilleuse coordinatrice vie associative. Donc venez, c'est ouvert à tous, venez et à toutes.
Merci beaucoup. Donc, je laisse du coup la parole à Fred pour les annonces. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette chronique.
À bientôt.
Eh ben, merci à Christian, merci à Denis et bien sûr, merci à Isabella pour cette chronique. Donc, le Libre fait ça comme. La prochaine chronique aura lieu donc en juillet, 2 juillet 2019, de mémoire, une émission spéciale chronique. Donc, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons donc terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces d'événements, donc Apéro April à Montpellier le 20 juin. Je précise que tous les événements sont sur le site de l'April et aussi sur le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org. Jeudi 20 juin, Paris, soirée de contribution au logiciel libre, avec notamment un atelier du groupe Sensibilisation de l'April, donc avec la merveilleuse Isabella. Toujours jeudi soir, 20 juin, à Paris, l'avant-première du documentaire LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse dont on a parlé la semaine dernière, donc c'est Porte des Lilas. En introduction, je vous avais parlé d'un petit quiz avec une question. Que se passe-t-il à Rézé, donc dans les Pays de la Loire, en lien avec notre émission de la semaine dernière? Eh bien, à Rézé, ce samedi 22 juin 2019, il y a une cartoparty tous à vélo. Donc une cartoparty, c'est une collecte d'informations sur le terrain, donc sur le thème du vélo. L'objectif est de parcourir les rues rézéennes à la recherche des aménagements cyclables afin de les intégrer à OpenStreetMap, la carte numérique participative libre. Un petit message qu'on nous a demandé de relayer, les personnes qui avaient réalisé en 2017 le documentaire Nothing to Hide, donc rien à cacher, dédié à l'acceptation de la surveillance de la population à travers l'argument je n'ai rien à cacher, travaille depuis à une suite documentaire qui s'appelle Disparaître, qui s'intéresse aux moyens de défendre sa vie privée en ligne. Le film se penche sur différents cas, de citoyens à faible risque et des profils plus exposés en ligne, comme des femmes, des journalistes, des minorités, des activistes, des lanceurs d'alerte et lanceuses d'alerte. Une campagne est lancée qui se termine le vendredi 21 juin 2019. Il manque quelques euros pour boucler cette campagne de cofinancement. Et puis évidemment, sur le site de l'agenda du Libre, vous retrouvez tous les autres événements. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Donc Noémie Berger, Christian-Pierre Mongaudion, Denis Dordogne, Isabella Vanni. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci Étienne. Un merci particulier également à Lionel Allorge qui a filmé l'émission, de vous proposer à la rentrée une petite vidéo de quelques minutes sur les coulisses de l'émission. Un grand merci également à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui va s'occuper avec beaucoup de soin du traitement et de la préparation du podcast de l'émission avant sa mise en ligne. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 25 juin 2019 à 15h30. Principale sera consacrée à la bureautique libre. On parlera notamment de LibreOffice et de la Document Foundation. Donc nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 25 juin 2019. Et d'ici là, portez-vous bien.